Ça y est, l'écologie est enfin chaque jour à la une des médias. Aucune journée ne se passe sans son lot de rapports, de chiffres, de titres chocs, tous plus inquiétants les uns que les autres. De quoi se sentir aussi impuissant qu'un vermisseau face à l'immensité de la tâche à accomplir pour sauver notre belle planète. Mais puisqu'un seul ver de terre peut sauver tout un jardin, pourquoi nos simples gestes mis bout à bout ne pourraient-ils pas changer tout l'avenir de l'humanité ? Si le sentiment d'être impuissant nous noie dans le pessimisme, son meilleur remède pourrait bien être l'action. Une action engagée, aussi discrète qu'efficace, aux effets d'entraînement incommensurables. Et si on commençait aujourd'hui ? Je suis Cléa, autrice culinaire et exploratrice de solutions pour un avenir plus vert. Pour m'aider à cheminer, je suis partie à la rencontre des acteurs de l'écologie que sont les auteurs des éditions Terre Vivante. Ces femmes et ces hommes nous permettent de remplir une magnifique boîte à outils, 100% recyclée et recyclable, avec des gestes et des pratiques vertueux qui nous redonnent les pleins pouvoirs et l'optimisme qui va avec. Aujourd'hui, je me trouve dans le jardin de Marie Chioca, lecteur des livres de Terre Vivante et auditeur de Champ d'Action. Vous connaissez sans doute déjà Marie, autrice culinaire prolifique. Mais connaissez-vous Marie la jardinière ? Cette année, Marie Chioca publie « Mon fabuleux jardin en permaculture, légumes, fruits, fleurs, petit élevage et art de vivre, rien que ça », aux éditions Terre Vivante, bien sûr. Et c'est de son jardin que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Marie.
Bonjour Cléa.
Merci de nous accueillir chez toi.
Avec plaisir.
Alors Marie, est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu as appris à jardiner ? J'ai failli dire à cuisiner, c'est l'habitude.
Quand j'étais enfant, j'ai ma maman qui était passionnée de jardin. Et pour être vraiment très honnête jusqu'au bout, à l'époque, je ne l'aidais pas beaucoup. Et même quand il fallait l'aider, je rouspétais pas mal. Mais donc, ce n'était pas trop ma passion. Enfin, j'avais un petit bout de jardin qui me plaisait bien, voilà, mais ce n'était pas ma passion comme maintenant. Mais à l'âge adulte, mais vraiment jeune, hein, genre dès que j'avais 19-20 ans, d'un coup j'ai eu une envie de jardiner, un besoin de jardiner, mais j'avais pas, au début c'était pas possible, j'avais pas de jardin. Après j'ai eu une toute petite cour à l'époque où j'étais dans le sud, une toute petite cour entre trois murs où j'essayais de faire pousser trois trucs absolument morts de soif, c'était pas génial. Et quand j'ai eu le bonheur d'arriver donc dans le Dauphiné et d'avoir un vrai jardin, ça m'a pris par surprise. J'ai été tout de suite mordue de jardin. Et donc voilà, il y a eu quand même quelques années où je m'en suis pas tellement occupée de mon jardin, où j'étais tellement dépassée au niveau professionnel, avec aussi des enfants assez jeunes à la maison, que bon bah le pauvre jardin, il s'est un peu débrouillé tout seul. Et là, ça m'a repris vraiment d'une façon un peu monomaniaque depuis quelques années. Et moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça, oui.
Et justement, ton jardin ici, il a une histoire. Il n'a pas toujours été aussi florissant qu'il est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les différentes étapes par lesquelles il est passé ?
Alors, quand on a acheté la maison, j'étais pleine d'espoir. Alors, c'était en plein hiver, parce que la dame qui vendait la maison était jardinière dans un jardin de la région, qui est absolument merveilleux. Et donc, je m'étais dit, oh là là, au printemps, je vais avoir des surprises. Oh là là, je vais sûrement découvrir des plantes extraordinaires. Sauf qu'on dit toujours, c'est le... Hein, l'adage, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Cette pauvre dame, et on peut la comprendre, qui jardinait toute la journée pour son travail, et ben dans son jardin, elle avait juste mis ce que j'appelle des petits arbustes d'autoroute. Donc, 3-4 trucs avec des écorces de pin autour pour pas que les mauvaises herbes poussent. Et donc, grosse déception, un jardin vraiment sans vie, sans... sans plantes mellifères, sans potager, avec juste quelques 3-4 vieux arbres fruitiers qui avaient déjà 50 ans et que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc, il a fallu tout faire, quoi, voilà, parce que c'était vraiment, pour moi, ça a été vraiment la déprime. Juste pelouse, écorce de pin et 3-4 buissons épineux vaguement fleuris. Pas ce que je rêvais d'avoir.
Et qu'est-ce que tu as fait alors et dans quel ordre à peu près ?
Alors, en premier, j'ai lancé un potager. Monstrueux. À l'époque, mes enfants étaient petits, donc j'ai un petit peu galéré. Mais bon, on y est arrivé. Disons qu'à l'époque, je faisais un potager bio, mais avec des méthodes très traditionnelles. Donc j'ai eu quand même quelques déceptions. Ça ne produisait pas autant que je l'aurais espéré. J'ai perdu pas mal de trucs. Il y avait la lutte contre les ratopies. Alors les ratopies, c'est vraiment les Attila du jardin bio. Donc le potager, il s'est réduit, jusqu'à finir, il y a quelques années, par juste quelques salades, quelques tomates, faute de temps. Et puis, il y a 5-6 ans, je me suis dit, non, il faut vraiment que je relance mon potager. C'est idiot, on a une terre qui n'est pas mauvaise, on mange beaucoup de légumes. Et puis, j'avais envie, voilà, que j'avais vraiment... Moi, j'ai besoin de mettre les mains dans la terre quand, des fois, je suis très fatiguée. J'ai l'impression que je me repose plus à bêcher qu'à me mettre dans un lit à agoniser en tant que guillemets, en me disant, oh là, qu'est-ce que je suis fatiguée. Non, j'avais besoin, voilà, de me sentir proche du travail de la terre. Alors, c'est peut-être j'ai toujours en rigolant, c'est peut-être tous mes ancêtres paysans. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans le sang qui restait. Mais bon, voilà, donc j'ai relancé un bon potager. Et là, j'ai commencé à appliquer des principes de permaculture qui m'intéressaient beaucoup. Alors, j'ai testé quelques trucs qui étaient super efficaces et que j'ai adoptés vraiment de bon cœur. D'autres qui étaient un peu plus loufoques et que j'ai laissé tomber, et ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Et voilà, et donc maintenant, mon potager est donc cultivé entièrement en permaculture. Et j'ai aussi un bon verger et pas mal de fleurs et de roses. J'aime beaucoup les roses.
On va revenir sur tout ça. Est-ce que d'abord, tu peux nous raconter ce qui a été à l'origine de l'écriture de ce livre ?
Ah oui, alors c'est très simple. Je ne travaille plus que pour Terre Vivante maintenant parce que c'est une très chouette maison d'édition. Et donc, je vais faire un livre dont je ne donnerai pas le titre parce que du coup, je vais le faire plus tard, donc on ne va pas spoiler. Mais un livre de cuisine, mais on est arrivé en plein confinement. Ce funeste confinement de mars-avril 2020 dont tout le monde se souvient. Et là, impossible de faire les courses correctement. Quand j'allais au Leclerc, au Biocoop, c'était impossible. Les gens avaient tout, avaient vraiment fait la razzia et sur les ingrédients dont j'avais besoin pour mes recettes. Et là, j'ai appelé mon éditrice et j'ai dit, je vais jamais réussir à faire ce livre parce que je peux tout simplement pas me procurer les ingrédients dont j'ai besoin. Et quand on doit faire 5-6 recettes par semaine, on peut pas se permettre de pas avoir ce qu'il faut sous la main. Et donc, j'ai dit, par contre, si tu veux, ce que je peux te faire, c'est un livre sur le jardin. J'ai rêvé de ça toute ma vie. Et là, ça, mon jardin, et je sais ce qu'il y a dedans, donc on risque pas d'être déçu, on risque pas d'être en rupture de stock. J'aimerais parler de mon jardin. Ça fait 3-4 ans que j'en rêve. Voilà, alors la seule chose, c'est que je suis pas une jardinière professionnelle, mais j'aimerais beaucoup partager avec mes lecteurs mes petites anecdotes, mes petites astuces, mes ratés aussi, parce que des fois c'est rigolo de raconter ce qui a pu vraiment foirer dans les expériences au jardin. Et elle m'a dit ok, donc j'étais super contente, je me suis dit ah, ça va être vraiment un livre super super cool et tout. Bon, pour finir, faut être honnête, ça a été le livre le plus dur de toute ma vie. Parce qu'il fallait jardiner, prendre des photos, écrire des recettes, à fond la caisse. Et j'ai fini un peu fatiguée, mais je suis très très contente de l'avoir fait. Et donc, voilà, ça fait partie des quelques effets, rares effets positifs de ce confinement à la noix qu'on a eu. C'est que grâce à ça, j'ai fait ce bouquin. Mais j'ai quand même mis un an à le faire. C'était pas une petite affaire.
En même temps, il fallait l'année pour représenter les 4 saisons au jardin.
Exactement, oui, tout à fait.
Et comment est-ce que tu as surmonté, on pourrait dire, le complexe d'imposteur face au fait de ne pas être, justement, tu le disais, un jardinier professionnel, ni même un auteur alors, en matière de jardinage?
Oui, faut être clair, je ne l'ai pas surmonté du tout. je suis encore en train de me dire, oh là là, malheur, j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'a pris? Oh là là, qu'est-ce que vont penser les vrais jardiniers? J'ai toujours peur, oui, c'est vrai, d'être jugé. Mais en même temps, ce qui me réconforte, c'est que j'ai vraiment dit beaucoup d'honnêteté. Comment ça se passait dans mon jardin, vraiment? J'ai rien enjolivé, j'ai rien aggravé non plus. Donc du coup, je pense que j'ai été sincère. Je suis allée jusqu'à peser les moindres récoltes, jusqu'à prendre des photos, même des trucs qui avaient foiré. Et donc, en fait, c'est vraiment un témoignage de vie. C'est la vraie vie, quoi. C'est pas... Donc, ça montre aux gens que quand on n'est pas forcément un jardinier pro, quand on n'a pas forcément un très grand jardin, parce que mon jardin, en tout, il fait à peu près 1500 mètres carrés, donc c'est comme un vrai jardin. Mais là-dessus, il y a une maison et plein de dépendances agricoles. Donc, au final, en terre cultivable, il y a beaucoup moins. Et mes deux potagers, à eux deux, ils font juste 120 mètres carrés. Et à 120 mètres carrés de potager, on a été, alors vraiment, très sincèrement, totalement autonome en légumes depuis un an. Et voilà, cet hiver, on a acheté une fois des endives parce qu'on en rêvait et que ça, je ne sais pas les produire. Et une fois des brocolis, c'était hier soir parce qu'on n'en avait plus mangé depuis l'automne et qu'on en rêvait. Mais sinon, on est quand même 8 On mange des légumes midi et soir et on a mangé que les légumes du jardin. Et donc, je pense qu'avec seulement 120 mètres carrés cultivables, ben, ça valait le coup, du coup, de partager un petit peu l'expérience parce que souvent, on entend qu'il faut au moins 500 mètres carrés pour nourrir 4 personnes. Mais ça, c'est sans la permaculture.
Tout à fait. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que comme tu l'avais fait en créant ton blog de cuisine et en écrivant des livres de cuisine, finalement, ton livre est moins intimidant que celui d'un jardinier professionnel.
En tout cas, j'essaye que ça soit pas intimidant parce que déjà, moi, je suis très timide. Alors, si en plus, je rentimide les autres, ça va pas le faire. Non, non, j'essaye de partager les choses telles qu'elles sont. Mais forcément, je fais pas tout bien. Ça, c'est sûr. Enfin, mais bon, on a quand même des bons légumes, des belles fleurs, plein de poules. Des bons fruits, donc bon. Moi, mon but, c'est de donner envie aux gens. Et surtout pas de les intimider, mais de leur donner envie de jardiner et de transformer leur petit bout de terre en une zone qui soit fertile, qui soit nourricière. Parce que quand on y pense, on est quand même nombreux à avoir des jardins. Pour moi, c'est un acte militant de cultiver son jardin de façon à le rendre fertile, nourricier, mellifère, plutôt que d'avoir une grande pelouse toute propre avec juste une piscine et une balançoire. Même si je juge pas du tout les gens qui font comme ça, je rêve que nos terres, nos petits bouts de jardin soient plus productifs et nous apportent vraiment quelque chose et avoir quelque chose du coup à la planète, parce que plus on produira de nourriture très locale, sur place, de bonne qualité, et de toute façon plus notre planète se portera bien. C'est pas la seule solution, mais c'est une des nombreuses solutions qui s'offrent à nous pour améliorer un petit peu les choses de façon réelle.
Et c'est vrai qu'en tant que lectrice jardinière amatrice, pour ma part, les livres de jardinier professionnel m'intimident beaucoup. Je me dis toujours que je vais pas y arriver, il y a beaucoup de vocabulaire que je ne comprends pas. Et c'est vrai que de lire ton expérience, moi, ça dédramatise un petit peu la chose.
C'est gentil.
Ça nous met à portée de la main, disons. Alors, on va rentrer un petit peu dans ton jardin.
Oui.
Est-ce que tu peux nous faire une petite visite guidée, une visite audio guidée?
Oui. Alors, quand on ouvre le portail, on tombe sur une grande allée qui mène à la maison avec des... Alors là, c'est une espèce de cour de ferme avec des fleurs un peu partout, des rosiers anciens, des rosiers anglais. Moi, j'aime beaucoup les roses. Et puis, plein de fleurs. En général, quand je choisis mes fleurs, je fais quand même attention qu'elles soient sobres en eau, qu'elles soient mellifères et qu'elles soient rustiques, parce que j'ai aucune envie de planter des trucs qu'il faudra biberonner à la flotte et à l'engrais jusqu'au restant de mes jours. Ça, c'est au-delà de mes forces. Je ne suis pas comme ces jardiniers anglais qu'on voit toute la journée avec des tout petits ciseaux en train de découper chaque oreille de feuille qui dépasse. Non, moi, il faut que ça se débrouille un peu tout seul quand même. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de fleurs, mais ma cour fleurie, elle est assez facile à vivre. Voilà. Après, on pousse un petit portillon en bois vert amande. Et là, on arrive dans un potager, un premier potager, qui est clôturé par un petit muret de pierre. Et là, c'est un vieux potager. C'est le potager ancien de la maison. Celui qui est cultivé, je pense, depuis plusieurs générations, même si je ne connais pas les anciens propriétaires de cette maison. On voit très clairement que ça a toujours été un potager. Et les anciens faisaient ça très bien parce que le fait qu'il soit ceinturé comme ça par ce petit muret de pierre, ça fait une sorte de microclimat. Et donc, dans ce potager, on a une très bonne terre. Donc, on voit qu'elle a été chouchoutée pendant longtemps. On a une petite serre qu'on a construite nous-mêmes avec des vieilles fenêtres de récupération. On a un gros cerisier qui me complique un peu la vie parce qu'il fait beaucoup d'ombre. Mais comme il produit beaucoup de fruits, je le laisse tranquille. Et un mirabellier qui fait des mirabelles extraordinaires. Donc pareil, il est un peu vieux, il fait de l'ombre, mais ça se respecte. Un vieil arbre, il était là avant nous, et on ne le touche pas. Et donc, on peut ensuite, de ce potager-là, accéder à un autre endroit du jardin, qui est une sorte de grand verger, où pendant longtemps, on avait fait un espèce de petit terrain de badminton, parce que l'endroit est très plat. Et puis un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit, c'est vraiment idiot d'avoir juste une pelouse qui sert pas à grand chose. Et donc, je l'ai aussi transformé en potager. La terre est beaucoup plus difficile à travailler parce que elle est récente. Enfin, c'est un peu sablonneux, ça retient pas bien l'eau, ça retient pas bien les éléments nutritifs. Et donc, c'est très clairement une terre qui a besoin d'être chouchoutée. Et pour moi, c'est un beau défi de la rendre aussi belle, aussi fertile, aussi vivante que celle de l'ancien potager. Et petit à petit, mois après mois, quasiment, je vois l'amélioration, toujours grâce au principe de permaculture. Et donc, dans cet endroit du jardin, il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers que j'ai plantés ou qui étaient déjà là, et des poules. Donc, ils vadrouillent sous les arbres fruitiers, mais pas dans le potager, évidemment. Sinon, ça serait vraiment la catastrophe.
Et justement, quelle est la place du jardin d'ornement par rapport au potager, enfin la proportion?
Déjà, moi, j'imagine pas un jardin sans fleurs. Enfin, ça serait vraiment un peu triste. Et donc, la proportion, c'est, je dirais, il y a à peu près... En fait, je n'ai des fleurs que dans la cour. La cour représente à peu près un quart du terrain. Et après, les trois quarts restants, c'est verger, potager. Sachant que dans le verger, c'est aussi la pâture des poules. Voilà.
Et pour en revenir aux animaux, donc quels animaux exactement est-ce que tu as ici? Combien? Quelle place est-ce qu'ils occupent?
Alors, j'ai un beau poulailler. J'ai beaucoup de poules. Et depuis cette année, quelques jolies poules de race dont j'ai toujours rêvé parce que... En fait, c'est toute une histoire. Pendant longtemps, j'ai eu ce qu'on appelle des poules de sauvetage, donc des poules qu'on récupérait, les pauvres, dans des élevages, parce que bon, souvent à 18 mois, elles sont réformées, alors que bon, 18 mois, c'est pas bien vieux. Bon. Donc on s'est dit, on va toujours acheter des poules comme ça. Mais cette année, elles sont arrivées, on n'en achetait pas tous les ans, hein. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'acheter des poules tous les ans. Et puis cette année, on en a acheté qui étaient vraiment mal en point, elles sont arrivées malades, elles ont rendu malades nos autres poules. Donc ça a été une expérience éprouvante. J'ai passé tout l'été dernier à les soigner, on en a perdu beaucoup, je me suis dit plus jamais. Donc là, j'ai acheté quelques poules de race et j'espère qu'elles vont... on a aussi deux coques, donc j'espère qu'elles vont faire quelques poussins chaque année. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup, hein, juste de quoi remplacer les très très vieilles qui seront parties. Et donc du coup, ces poules pour moi sont très importantes parce que pour moi, une poule, c'est vraiment une petite usine très propre qui va recycler tous les restes de table, de jardin... Des fois, même des choses qu'on ne peut pas mettre au compost, en fertilité pour le potager et en bons œufs pour nous. Et puis, une poule, c'est sympa, c'est joyeux. C'est... Bah, pareil, j'imagine pas un jardin sans fleurs. J'imagine pas un jardin sans poules.
D'autant qu'il y en a qui font des œufs bleus.
Oui, des poules à rocana. C'est mon délire. Elles pondent des œufs bleus délicieux. Voilà, j'ai aussi des poules qui pondent des œufs blancs, des poules qui pondent des œufs couleur chocolat.
Et c'est Pâques tous les jours chez
ouais,
toi.
Ouais, voilà. Mais ça fait pas longtemps, ça fait que quelques mois que je les ai. Et je crois que je pourrais plus m'en passer maintenant.
Et en dehors des poules, tu as d'autres animaux?
J'ai eu des canards que j'ai pas pu continuer l'élevage de canards. Alors un canard, c'est génial. On dirait que ça rit, c'est un petit animal joyeux et super parce que ça mange les limaces. J'ai pas pu les garder pour une raison stupide. J'avais pris des canards coureurs indiens pour qu'ils mangent les limaces dans mon potager. Mais j'ai aussi un gros chien de berger qui a une idée très, on va dire, militariste des choses. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit, voilà, faut que les poules soient au poulailler, le facteur derrière le portail, il faut que tout soit bien rangé. Et donc pour lui, des canards dans le potager du maître, c'était... l'anarchie. Donc à chaque fois que je lâchais mes canards pour manger les limaces, le chien partait en live et donc allait attraper les canards pour les remettre dans le poulailler. J'ai réussi à ce qu'elle ne me tue jamais un canard, mais je me suis dit non, je vais les donner avant qu'un canard finisse les pattes en l'air. Donc voilà, j'ai jamais réussi à expliquer à mon pauvre chien que c'était normal que les canards soient dans le potager. Mais je pense que ce qui a fait péter un câble à mon chien, c'est que quand une poule passe dans le potager, je cours derrière pour la mettre au poulailler. Et donc, elle n'a pas dû faire la différence entre canard pour manger les limaces et poule, poule qui mange les salades. Donc, je n'ai pas gardé de canard et c'est dommage, je les aimais bien.
Ouais, c'est dommage. Il y a d'autres animaux?
Je rêverais d'avoir des oies, mais les voisins ne sont pas trop d'accord. Voilà.
Ça fait du bruit.
Ça fait énormément de bruit, plus encore qu'un coq. C'est terrible. Pareil, tout ce qui est pintade, tout ça, moi, faut que je dise adieu parce que les voisins, les pauvres, seraient pas trop d'accord. Et sinon, bah oui, on a trois toutous. On a juste quelques lapins comme ça pour le plaisir, parce que c'est voilà des petits animaux qu'on aime beaucoup. Et puis après, non, on a rien de bien. J'ai eu une brebis, j'ai eu une petite chèvre, mais 1500 mètres carrés, c'est vraiment trop petit. Donc j'ai dû les donner à un voisin et je vais les voir quand je me promène à pied, mais je suis triste, j'ai pas pu les garder, non. Faut pas rêver.
D'accord. Donc on l'a dit tout à l'heure, ton potager est incroyablement productif.
Oui.
C'est presque de la permaculture intensive.
Oui, on peut le dire, c'est de la permaculture intensive, oui, tout à fait.
Tu nous as dit tout à l'heure combien de mètres carrés, combien de kilos de légumes est-ce que tu as produit en un an?
Alors, on a absolument tout pesé et on a plus de 600 kilos de légumes, je crois, quelque chose comme 660, je vérifierai, je l'avais noté, et 440 salades.
Oui, c'est impressionnant.
Oui, ça c'est vraiment, j'étais contente en
Est-ce que tu recherchais l'autonomie alimentaire en te lançant là-dedans?
Non, pas du tout. Je voulais juste avoir, quand j'avais envie, au moins quelque chose au jardin. Toujours quelque chose au jardin, quand des fois on n'a pas le temps de faire les courses, ou parce que certains légumes sont toujours meilleurs quand on vient de les ramasser, ou aussi parce que certains légumes sont délicieux et qu'on les trouve difficilement. Moi par exemple, il y a certains trucs dont je suis fana et que je trouve quasiment que dans mon potager, s'il fallait que j'attende de les trouver dans les magasins, je ne pourrais pas.
par exemple ?
Le chou Mizuna, je suis dingue du chou Mizuna. Il y a aussi les choux Flower Sprout, sont des sortes de petits choux de Bruxelles, pas du tout forts. J'ai horreur des choux de Bruxelles. Mais les choux Flower Sprout, qui ont un nom un peu ridicule, ce sont des petits choux de Bruxelles, mais roses et frisés. Et c'est comme le chou cale, c'est pas fort. C'est délicieux, on a beaucoup de mal à en trouver. J'avais découvert ça au magasin bio, mais à chaque fois, il fallait attendre qu'ils en aient, qu'ils en reçoivent, les maraîchers étaient en rupture, etc. Bon, j'en ai eu marre, je me suis plantée dans le jardin et maintenant je les ai. Voilà, pareil avec les variétés de tomates, il y en a qui sont délicieuses et qu'on trouve pas toujours. Donc voilà, moi je suis dingue des petites tomates cerises Black Cherry. Elles sont un peu marron, elles ont un goût génial, elles sont super sucrées et ça j'en trouve que dans mon jardin. Voilà, donc une question de gourmandise. Pareil avec les concombres, dans les magasins on trouve toujours les mêmes concombres, alors qu'il y a des variétés de concombres qui sont dingues tellement elles sont croquantes, parfumées. Voilà, je me suis mis à aimer le concombre le jour où j'ai commencé à cultiver des concombres dans mon jardin en fait. C'est aussi simple que ça.
Ça se comprend. Donc on l'a dit, ta méthode n'est pas vraiment académique. Quels sont les livres dans lesquels tu as puisé pour t'inspirer ici et là ?
Alors, beaucoup, beaucoup de livres de terre vivante. Je dois en avoir, sans exagérer, je dois en avoir une trentaine chez moi, mais je ne les ai pas tous achetés en même temps. Hein. Ça fait 20 ans que je les collectionne. En fait, ils m'ont tous servi quasiment. Ils m'ont tous servi, des fois juste pour une petite idée prise là. J'ai des livres sur le paillage, j'ai des livres pour économiser l'eau, j'ai un livre sur l'association des légumes, j'ai un livre sur la lasagne en permaculture, on pourra y revenir, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Alors, un qui m'a fait beaucoup avancer vers la permaculture, c'est le livre de Joseph Chauffret sur le petit jardin en permaculture. Parce que là, je me suis vraiment retrouvée dans le même cas que lui, c'est-à-dire un tout petit jardin. En tout cas, moi, la surface que je pouvais cultiver en légumes était très petite. Et comment faire pousser le maximum de nourriture de très bonne qualité sans épuiser mon sol sur une petite surface. Et là, j'avoue que j'ai mis en pratique beaucoup de choses qu'il préconisait. C'est vraiment très bien. Après, il y a aussi des choses que j'ai appris en regardant des vidéos sur Internet, en lisant des articles, en parlant aussi avec d'autres personnes. Enfin, des fois, il y a des trucs incroyables. J'ai des voisins qui habitent plus haut que chez moi. Ils habitent pas très loin de chez moi, mais juste 100 mètres au-dessus en altitude. Ils n'ont aucune maladie cryptogamique, alors que moi, je galère. Et en fait, en discutant avec eux, je pense qu'on a trouvé la solution. C'est qu'ils ont un sol très riche en silice, alors que moi, non. Et en faisant des lectures, je me suis rendu compte que la silice est un élément majeur de la lutte contre les maladies cryptogamiques, parce que les plantes qui ont un accès, qui ont accès à la silice quasiment à gogo, leur structure cellulaire est plus solide et donc elles sont beaucoup moins fragiles et tout ce qui est oïdium, rouille, mildiou, etc. beaucoup plus de mal à les attaquer. Et donc moi clairement ce qui me manquait c'était de la silice. Donc j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'on pouvait acheter de la poudre de basalte. Alors en général je suis pas très emballée par l'idée de faire venir des trucs de loin, mais là pour le coup là j'ai fait l'exception. J'ai ajouté de la poudre de basalte dans mon jardin et je vais voir cette année si ça fait la différence. Parce que très clairement, c'est la silice qui manquait à mon sol.
D'accord. Alors, on va revenir après sur les méthodes qui ont bien fonctionné pour toi. Est-ce qu'il y en a au contraire qui ont été un échec total que tu ne recommanderais pas ?
Ben, c'est pas que je ne recommanderais pas parce qu'on a tous des terres différentes, des climats différents. Une faune différente. Moi, par exemple, j'avais essayé de faire des buttes de culture et je me suis retrouvée qu'il y avait une invasion de serpents. Et ça, pour moi, quand je vois un serpent, je pense qu'on m'entend crier à Grenoble, à Lyon, à Valence, enfin, ils m'entendent à 100 km à l'heure.
Très loin.
Voilà, voilà. C'est horrible. J'ai une phobie des serpents qui est vraiment maladive. Et là, de me retrouver, bon, en l'occurrence, pour moi, c'était impossible de supporter ça. Donc, la butte de culture, non. Voilà. Mais sinon, la lasagne, ça a bien fonctionné. Bon, un jour, je peux me retrouver avec des serpents dans ma lasagne. Hein, mais bon, ça m'est jamais arrivé, pourvu que ça arrive jamais.
Je suis en train d'imaginer des lasagnes qu'on sert à table avec des serpents à l'intérieur.
Oh, quelle horreur.
C'est pas un très bon trip.
Oh, quelle horreur.
Faut qu'on revienne sur le jardin.
Quelle horreur. Oh là là.
Et donc, d'autres choses qui n'auraient pas fonctionné pour toi, en tout cas ?
En permaculture, tout ce que j'ai essayé a fonctionné, mais je n'ai pas tout essayé.
Alors, venons-en aux choses qui fonctionnent, notamment la méthode de la lasagne.
Oui.
Tu as présenté une super vidéo l'année dernière, avant même de lancer ton blog, sur lequel on reviendra aussi sur le jardinage. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu l'as mise en œuvre ?
Je trouve ça formidable parce qu'en fait, c'est un système qui permet de mettre en culture une terre, une prairie par exemple, qui est encore couverte d'herbes, voire même de mauvaises herbes. On la met en culture en quelques heures, En fait, le principe consiste à d'abord poser des cartons sans encre, sans scotch, donc les plus naturels possibles, sur le sol, sans couper l'herbe, sans retourner la terre, sans rien. Et ensuite, pour faire simple, on entasse 5 cm par 5 cm d'épaisseur, des matériaux azotés et carbonés, en alternant. Alors, tous les matériaux azotés, c'est de l'herbe fraîche, du fumier frais, etc. Et les matières carbonées, c'est plutôt la paille, le foin sec, quand il est sec, les feuilles. Et donc, on alterne 5 cm de matière azotée, 5 cm de matière carbonée, et on arrive comme ça à 30 cm de haut. Et ensuite, là-dedans, on plante directement les pieds de légumes. Et ça me semblait absolument incroyable, en découvrant ça, que ça puisse fonctionner. Et en fait, ça fonctionne très bien. Les légumes poussent super bien. Et quand, au bout de quelques mois, on les arrache parce qu'on les a mangés ou parce qu'on arrive à l'automne, eh bien, non seulement la lasagne s'est décomposée et a fait un apport de compost absolument massif dans le sol, mais en plus, la terre qui était souvent un peu dure dessous, parce qu'on peut faire une lasagne même sur une prairie qui a été piétinée, tassée, etc. La terre a été totalement aérée parce que toute la belle saison, les vers de terre qui raffolent des matériaux qu'on a mis dans la lasagne, donc ils aiment le carton, c'est fada. Pas chercher à comprendre, ils aiment le carton. Ils aiment le carton, ils aiment l'herbe, ils aiment tout ce qu'on a mis. Et donc, ils font je ne sais combien d'allers-retours pour venir boulotter les trucs qu'ils aiment bien et les enfouir dans la terre. Et donc, ils labourent à notre place. Sans mettre sans dessus-dessous les couches du sol, ce qui est très important. Et donc, j'ai fait des lasagnes souvent pour agrandir mon potager petit à petit. Et je pense que cette année, c'est la seule année où normalement, j'en ferai pas. Parce qu'en fait, je sais plus où en faire.
Plus de place.
Ouais, quasiment tout ce qui pouvait être cultivé en légumes est déjà en culture.
Et donc, on n'attend pas que la lasagne commence à se décomposer pour planter à l'intérieur.
Ben non, c'est incroyable.
On ne sème pas, on plante.
Alors, on pourrait semer en mettant un fin lit de terreau, mais ça, j'ai jamais essayé.
D'accord.
Voilà.
Justement, on en arrive à la question des plants. Dans quel cas est-ce que toi, tu choisis les semis plutôt que les plants et inversement ?
Eh bien, tout ce qui peut pousser facilement, tout ce qui n'est pas trop compliqué, qui n'a pas besoin de chaleur, je le sème. Je produis quasiment tous mes plants. Par contre, je ne produis pas mes plants de tomates, de poivrons, d'aubergines. Je crois que c'est tout, parce que c'est trop compliqué. Je n'ai pas de serre chauffée. Dans le Dauphiné, en mars-avril, il peut encore faire très très froid. Et j'ai essayé, mais il s'étiole en fait. Ça pousse, mais ça donne des plants qui sont fragiles, qui ont souffert avant même d'aller au jardin, et ça, c'est pas bon.
Et où est-ce que tu te procures tes plants ?
Alors, on peut en trouver en jardinerie, c'est vrai, même des fois en bio. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les acheter sur les marchés de producteurs. J'ai donc un de mes enfants qui est chevrier, qui donc fait plusieurs marchés. Et souvent, c'est lui qui me ramène des plants, parce qu'il est collègue avec tel maraîcher qui propose des plants de ceci, des plants de cela. Et souvent, la belle saison, il m'appelle, il me dit « Ah maman, un tel, il lui reste des plants de concombre, d'aubergine, allez, ben, ramène. »
Il y a toujours une petite place.
Toujours, voilà. Mais bon, faut être honnête, ça m'est quand même arrivé aussi d'acheter en jardinerie. Et des fois, quand je ne trouve pas du tout, j'achète aussi parfois sur Internet. Alors, je ne veux pas du tout faire le schtroumpf à lunettes qui dit « Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là, etc. » Mais j'essaye autant que possible de ne pas acheter sur Internet, parce que ce qui me peine toujours un peu, c'est que quand ça arrive, il y a énormément d'emballage, en fait. Et même si je comprends très très bien que les pépiniéristes qui envoient soient absolument obligés de faire comme ça, sinon leur plan arriverait en hachis parmentier, moi, si je peux faire autrement, je fais autrement. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas commander sur Internet, parce que si vous n'avez pas près de chez vous des jardineries qui proposent des plants de bonne qualité, pas trop poussants en engrais, etc., je pense que c'est comme pour tout, il faut réfléchir. Est-ce qu'il vaut mieux commander des plants bio sur Internet qui vont devoir voyager avec de l'emballage et tout, ou acheter près de chez soi des plants dans des godets de plastique qui ont été arrosés à l'engrais ? Ça, j'ai pas de réponse. Voilà, donc aussi, ma réponse, c'est d'essayer de produire moi-même un maximum de plants, en fait.
Et justement, tu as mis en place une sorte de pépinière.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Après avoir cherché longtemps où je pouvais cultiver en mars-avril, les petits plants, sans qu'ils aient trop froid. J'ai trouvé un truc tout simple qui existait déjà chez moi, comme quoi ça vaut le coup des fois d'ouvrir un peu les yeux pour voir qu'est-ce qu'on a déjà chez soi comme infrastructure avant d'acheter des choses compliquées ou onéreuses. En fait, j'ai une porte-fenêtre qui est plein sud, avec une sorte de grande dalle de béton devant. c'est pas vraiment une terrasse, hein, c'est une dalle qui doit faire à peu près un mètre de large. Les anciens faisaient ça, ils bétonnaient le tour des maisons pour pouvoir faire le tour sans se mouiller les pieds. Alors moi, je suis archi contre parce que j'aime mieux quand il y a des plantes et tout ça, mais bon, celle-là, elle y était, on l'a pas cassée. Et grand bien nous en a pris parce que, en fait, cette dalle de béton, je pose dessus des caisses en bois avec des petits godets, avec tous mes plants de choux, j'ai que les choux qui me viennent en tête, alors j'aime pas trop ça, de salade, d'aroche, de tétragone, de tout ce que je veux, enfin tout ce que je plante en mars-avril, même de courges, de courgettes, etc. Je les pose sur la dalle de béton, donc toute la journée ils sont en plein soleil. Et le soir, comme la dalle de béton et les murs de la maison ont accumulé beaucoup de chaleur, en fait, ils restituent cette chaleur pendant la nuit. Et je me rends compte qu'à cet endroit, les plants prospèrent très très bien en mars, avril, mai. Par contre, je ne peux pas me servir de ce système en été, parce que c'est en été qu'on sème les plants de légumes d'hiver, comme les chicorées, les choux chinois, etc. Parce que là, pour le coup, il y fait beaucoup trop chaud. Donc en été, je vais plutôt chercher l'ombrage léger d'un arbre fruitier. Et là, j'installe une table que j'ai trouvée dans une brocante. Et dessus, je mets mes petits plants à l'abri du feuillage et ça fonctionne mieux. Donc je suis assez contente de mon système. Ça, c'est de la débrouille, mais ça marche bien.
Alors, et dans le genre débrouille, j'ai cru comprendre qu'il y avait certains végétaux, certains plants que tu utilisais un peu comme bouche-trou.
Oui.
Si tu peux nous raconter ta méthode, là, qui n'est pas très conventionnelle non plus.
Alors, en fait, je fais beaucoup de plants. Comme ça, si j'en ai trop, je les donne. Ça, c'est pas un souci pour moi. Mais surtout, j'en ai toujours en culture. Ce qui fait que quand j'ai une plante qui n'a pas pris ou un légume qu'on a récolté plus tôt que prévu, j'ai toujours d'autres plants qui attendent, prêts à être plantés. Surtout, par exemple, des blettes. Des blettes, c'est un légume qui supporte d'attendre un petit peu en godet sans trop souffrir du moment qu'on les arrose bien. Il y a d'autres légumes qui n'aiment pas du tout attendre. Mais il y en a certains qui peuvent attendre, des fois même un mois et demi du moment qu'on s'en occupe bien. Ce qui fait que mon jardin est toujours plein de légumes. Faut pas s'imaginer chez moi avoir des allées bien droites avec un rang de choux, un rang de poireaux, un rang d'oignons, etc. En fait, il y a de tout sur tous les rangs. Alors, c'est moins joli à l'œil, même si moi je trouve ça joli quand même. Mais l'intérêt, c'est que dès qu'il y a une place, hop, j'y remets un légume.
Est-ce que tu fais quand même attention aux préconisations d'envergure autour de chaque plant ?
J'essaye, ça se passe pas toujours bien. Il y a des fois des légumes qui essayent d'étrangler les légumes d'à côté. Donc là, il faut faire un peu le shérif, c'est-à-dire que soit faut arbitrer.
Faut arbitrer.
Voilà, soit on récolte un des deux légumes, soit on leur taille juste un petit peu les oreilles en pointe pour qu'ils tiennent tranquilles. Faut voir. Et ce que j'ai remarqué quand même, c'est que souvent, on peut planter un peu plus densément, un peu plus serré, que ce qui est préconisé sur les petits sachets de graines ou faut pas s'affoler, on peut
sans épuiser le sol.
Ah oui, alors ça par contre le sol il faut en prendre soin. Si on veut pas l'épuiser, il faut vraiment en prendre soin. En fait, je pense que j'apporte plus de soin à mon sol qu'aux légumes eux-mêmes. Et pour moi c'est logique parce que je prends soin du sol et le sol lui son job c'est de prendre soin des légumes. Mais si par contre si moi je m'occupe des légumes sans prendre soin du sol, je vais court-circuiter quelque chose dans le cycle et le sol va souffrir et j'arriverai pas à prendre autant soin des légumes que ne l'aurait fait le sol si je m'étais bien occupée de lui. Donc dans l'ordre, c'est ça. On s'occupe du sol et le sol, lui, il s'occupe des légumes.
Il nous le rend bien.
Ouais, tout à fait. C'est super important. Quand on a compris ça, ça fait pas longtemps que je l'ai compris, ça doit faire juste 5-6 ans et ça change tout. Voilà.
Est-ce qu'il y a des légumes ou des fruits d'ailleurs qui t'ont donné tellement de fil à retordre que tu t'es dit cela plus jamais ?
Les carottes. Je suis frustrée parce que tout le monde cultive des carottes et moi, c'est la grande risée. Toute la famille se moque de moi parce qu'à chaque fois que j'ai planté des carottes, elles font 4 cm de long.
C'est mignon encore.
Oui, c'est mignon. Voilà, c'est un peu agaçant quand même. Mais je crois que sinon, tout le reste, ça va quand même. Je suis juste fâchée avec les carottes.
Qu'est-ce qui s'est passé avec les carottes ?
Je sais pas. Elles me boudent. Je sais pas. Bon, y a un peu les rats aux pieds qui s'en mêlent. Je sais pas. Il n'y a aucune raison. C'est presque surnaturel, en fait.
Alors, à l'inverse, est-ce que tu veux nous parler de ton compost à courges, qui,
oui,
lui, est assez prolifique, je crois.
Alors ça, c'est un truc rigolo. En fait, en avril, mai, je me retrouve avec énormément de déchets à composter. Alors, c'est parce que c'est le moment où je fais un très, très grand nettoyage dans le poulailler et dans la volière, parce que le poulailler en fait est prolongé par une volière grillagée et cette volière je la nettoie quand même moins souvent que le poulailler lui-même et je fais un très très grand nettoyage de printemps et là je me retrouve avec des mètres cubes de fumier un petit peu composté. C'est le moment où on taille les haies, donc tout ce qui est lilas, on a beaucoup de lilas, on les taille, on les broie. c'est le moment où on nettoie les massifs de fleurs. Donc, on se retrouve avec des brouettes et des brouettes de matériaux. Donc, je faisais avant des composts tout bêtes. Sauf que pour moi, un compost, je suis peut-être un peu maniaque, mais pour moi, c'est de la place perdue. Et un jour, je me suis dit, ben, et si j'essayais d'y mettre des graines de courge? Parce que des fois, on voit dans la campagne des courges qui poussent sur des tas de fumier, et c'est sans sas. Parce que du coup, je plante mes courges directement dans les composts. Chaque année, je fais ça. Et elles font, elles lancent des vrilles de 12 mètres de long, elles envahissent tout le verger. Elles font des fruits et des fruits et des fruits. C'est magnifique. Et ensuite, à l'automne, je ramasse les fruits. Et entre-temps, le compost, ben, tous les matériaux que j'avais mis au printemps, s'est transformé en humus magnifique que j'ai plus qu'à recouvrir. Alors, je le recouvre d'une bâche parce que si on laisse le compost comme ça en plein hiver, les pluies d'hiver lessivent tous les éléments nutritifs du compost et c'est super dommage. Donc, il faut vraiment bien penser à couvrir son compost automne-hiver. Et au printemps, j'ai plus qu'à l'étaler au jardin et j'ai vraiment un compost... C'est de l'or noir.
Tout ça sans avoir remué, j'imagine, puisqu'au moment des courges, il ne faut surtout pas y toucher.
Ouais, voilà, je laisse les courges faire tout le boulot avec leurs petites racines.
C'est encore mieux que les vers de terre.
Mais il y a aussi les vers de terre.
Tout ce qu'il faut.
Tout ce qu'il faut, ouais.
La question qui me vient en t'écoutant, c'est comment tu fais pour ne pas être débordée par le jardin, notamment en avril-mai, on va dire, là où il y a plus de boulot. Peut-être que ce n'est pas à ce moment-là pour toi,
mais...
On sait que tu as un travail, par ailleurs, d'autrice à plein temps, oui. Que tu es maman, que tu as plein de personnes de bouche à nourrir quotidiennement. Comment ça se passe, ta gestion
Alors,
du temps?
Clairement, je suis débordée, déjà. Mais ce que je fais, c'est que... En fait, il y a des activités dans la vie qui ont vite fait de nous miner quand elles ne sont jamais finies. Le jardin, ça peut être dangereux dans le sens qu'il ne faut pas être trop perfectionniste. Si on commence à se dire « je m'arrêterai quand j'aurai fini », où je vais me mettre la pression tant que tout n'est pas nickel, bien propre, tout semé, tout planté, ça peut vraiment rendre malade. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai fini par me dire, voilà, je décide que je passe tant de temps dans mon jardin, ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait, et ben du coup je sais que je n'aurai jamais le temps de le faire, et donc l'an prochain je ne le recommence pas. Donc en fait, en avril-mai, c'est là effectivement qu'on a le plus de travail. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye. Alors, je suis très privilégiée parce que j'arrive à prendre une semaine ou deux de vacances en avril ou mai où je m'occupe vraiment de mon jardin à fond. Mais j'ai pas pu faire ça toutes les années. Mais les années où j'ai pu le faire, ça m'a quand même beaucoup aidée parce que c'est le moment où vraiment on met tout le potager en culture. Et ensuite, c'est de l'entretien. En mai, quand tout a été planté, paillé, franchement, c'est pas beaucoup de travail. Ce qui est le plus pénible en été, c'est les arrosages. Alors cette année, je vais essayer d'installer un système d'arrosage automatique. Mais bon, sinon, c'est aller faire un petit tour tous les jours, mais vraiment pas long, hein, juste pour vérifier que tout aille bien, récolter les légumes qu'on va manger à midi et le soir. Et il y a un gros coup de collier à donner. Donc, je disais en avril pour tout mettre en culture, des fois en mars, même on peut commencer déjà à mettre des choses. En juin, quand on ramasse les cultures de printemps, quand on les enlève toutes et qu'on installe toutes les cultures d'été. Et donc, troisième gros coup de collier, fin août, début septembre, quand on arrache, par exemple, les concombres, les courgettes, etc., qui sont épuisées pour semer ou planter les derniers légumes d'hiver qui n'ont pas été semés ou plantés.
Et justement, à ce moment-là, est-ce que tu fais beaucoup de bocaux, par exemple? Oui. Ça doit demander beaucoup de travail.
Alors, c'est pareil. Les bocaux, je ne me rends pas la tête. J'essaye pas de mettre en bocaux tout ce qui sort de chez moi, tout ce qui sort de mon jardin, parce que sinon, on se rend dingue. Quand j'ai eu le jardin, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai vu les arbres fruitiers, des pruniers qui donnaient des 100 kilos de prunes, dans mon optique de ne pas gaspiller, je me suis épuisée. Et en fait, j'ai fini par me dire, c'est idiot. Les oiseaux aussi ont besoin de manger, sans blaguer. Ça ne me dérange pas du tout de partager. Donc, je fais des bocaux quand j'ai envie. Et quand j'ai plus le temps, ce que je ne peux pas manger, plutôt que me rendre malade parce que je ne peux pas les mettre en bocaux, j'essaye de me réjouir. Et franchement, j'y arrive en me disant, ça va nourrir les oiseaux. Quand ça va tomber au sol, ça va nourrir mes poules. Et puis voilà, c'est tout bête.
Alors, on est en avril, ton livre vient de sortir.
Oui.
Est-ce qu'il y a une recette que tu pourrais nous conseiller avec quelque chose que tu tires directement de ton potager en ce moment?
Alors, dans un potager d'avril, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cuisiner les fans de radis. En fait, pour être honnête, j'aime mieux dans les radis, j'aime mieux les fans que les pauvres petits radis en eux-mêmes. Et j'ai blanchi peut-être à peine une ou deux minutes à l'eau salée. Et après, je hache ça avec un peu d'huile d'olive, une gousse d'ail, un peu de parmesan. Et c'est une recette que je fais avec plein d'autres légumes. Je fais ça en hiver avec du chou noir toscan ou du chou misuna, sauf que le chou misuna, on peut le mettre cru. Et en fait, on mange ça avec des bonnes pâtes. Et c'est tout bête, c'est vraiment délicieux. On peut aussi, avec les fans de radis, faire des veloutés vraiment super goûteux. Voilà, nous on se régale, c'est bête, mais on se régale avec nos fans de radis, voilà, en attendant après qu'arrive mai, avec les pois gourmands, tout ça.
Est-ce qu'il est important de ne pas trop les faire cuire, peut-être pour éviter une certaine amertume ou...
Non, ça va. Enfin, moi,
c'est assez facile.
Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas cuisiner les fans de radis trop vieilles ou gigantesques, parce que sinon, elles sont un peu filandreuses. Mais quand c'est des petites fans de petits radis tout tendres, c'est vraiment délicieux. On a nos voisins italiens qui cultivent les cima di rapa. Alors, j'ai pas l'accent qu'il faut pour prononcer ça, mais ça ressemble un petit peu au goût. Voilà. C'est comme les fans de navets, hein. Les fans de navets primeurs, c'est délicieux.
Alors, tu as créé un deuxième blog, parce que tu avais encore beaucoup de temps libre, j'imagine.
Oh là là, oui, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait entre 1h du matin et 6h?
Donc, maintenant, tu fais un blog qui s'intitule...
La vie est belle quand on s'aime.
Super. Voilà. Et l'URL du blog, est-ce que tu peux nous la donner?
Permaculturefamiliale.fr.
D'accord. Ça, c'est encore un peu plus facile.
Oui.
Et donc, sur ce blog, tu partages tes astuces de jardinage, quelques recettes aussi.
Oui, et j'essaye surtout de montrer, j'ai envie de montrer aux gens pour leur donner envie. Enfin, c'est pas un blog, enfin, peut-être qu'il le deviendra à l'avenir, mais je vais essayer de pas faire quelque chose de trop didactique où je m'épuise à expliquer en long, en large, en travers, en diagonale, tout ce qu'il est possible d'expliquer. Que ça, c'est déjà ce que je fais sur mon blog de cuisine et j'avoue, j'ai un peu atteint le bout du bout de tout ce que je pouvais faire en termes de disponibilité. Mais là, par contre, j'aime bien montrer. En fait, mon truc, c'est de donner envie. Moi, il y a des trucs qui m'ont donné terriblement envie de faire un jardin. Et du coup, j'ai envie de donner envie aux autres.
Ouais, c'est comme un journal de bord avec des très, très belles photos.
C'est gentil.
Et pour plus de recettes, on l'a compris, on peut te retrouver sur ton blog Saine Gourmandise et puis dans tes livres chez Terre Vivante aussi.
Ben oui, voilà. Et j'essaye quand même de mettre des légumes, des recettes de légumes sur mon blog de jardin. Mais avec, du coup, que des recettes de légumes du jardin. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Marie.
Ben, c'est moi. Merci, Clea.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Champ d'Action sur le site champdaction.org ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Champ d'Action est le podcast de Terre Vivante, maison d'édition et centre écologique qui se lit autant qu'il se visite. Pour être tenu au courant de la diffusion des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec les mots-clés Champ d'Action Podcast. À bientôt.